conférencier de cet après-midi sera Jean-Philippe Bourgoin, que je remercie d'avoir accepté notre invitation, donc qui est directeur du laboratoire d'électronique moléculaire du CEA. Jean-Philippe Bourgoin est un physicien de la matière condensée au démarrage, puis après il a fait une thèse de physico-chimie sur les couches organiques conductrices. Et ensuite, il a participé à beaucoup de... Il a fait un postdoc chez IBM, et puis il a participé à et coordonné des projets européens dans le domaine qu'il passionne. Et depuis, en 2001, il a créé avec le CEA un laboratoire mixte avec Motorola, qui l'a expliqué il y a quelques instants, s'est arrêté en 2003, c'est ça, oui. Et donc, actuellement, je dirais le CEA continue des recherches dans ce domaine, d'ailleurs, qui va nous parler dans un instant. Et donc, il va nous parler d'électronique moléculaire qui, si je le cite dans un article qu'il a publié dans CEA Technologie, vous voyez, j'ai des bonnes lectures, vous disiez, c'était en 2001, vous disiez, pour justement à l'époque où vous avez créé le laboratoire avec le Motorola, vous disiez par rapport au silicium et même à l'électronique organique, écran souple, puce flexible, il y a beaucoup plus qu'une différence d'échelle entre donc l'électronique habituelle et l'électronique moléculaire. Ici, la chimie prend le pas sur la physique, la conception des transistors doit être entièrement reconsidérée et des questions sont très ouvertes. Comment maîtriser des contacts à l'échelle moléculaire? Quelles sont les propriétés de transport des molécules adressées une par une? Et puis des tas d'autres problèmes. Eh bien, écoutez, je crois qu'on va, j'espère, avoir quelques réponses à cette question. Merci encore de votre venue.
Bonjour à tous, merci pour l'invitation et pour l'introduction. Je vais donc parler effectivement d'électronique moléculaire. La façon dont on voit les choses 4 ans après les propos que j'avais tenus à l'époque, il y a des problèmes qui restent ouverts et qui resteront encore ouverts à mon avis pour un certain nombre d'années. Puis il y en a d'autres où on a pas mal progressé. Et de façon générale, ce dont je vais parler rentre dans le cadre... dans le premier périmètre qui est celui des nanosciences, essentiellement, et dans un deuxième périmètre qui est celui de l'amont de l'électronique. Alors, en fait, je vais commencer par vous parler un peu du contexte de l'évolution technologique qui justifie un certain nombre des recherches qui sont menées, qui par ailleurs se justifie par le fait qu'on explore de nouvelles propriétés de la matière, ce qui est une justification bien suffisante pour un physicien. Et je voulais juste le rappeler... Ça, c'est ma fibre de chercheur fondamentale. Puis ensuite, je ferai un petit bilan sur où on en est en électronique moléculaire. Je me focaliserai en particulier sur les aspects assemblage et auto-assemblage. Alors, le futur de l'électronique, si on s'en réfère à un des fondateurs de l'électronique actuelle, qui est Gordon Moore, il n'y va pas par quatre chemins. Il dit en gros, les lois de Moore vont avoir un problème à partir de 2017. Et si on se réfère à un des physiciens qui a eu le prix Nobel il n'y a pas si longtemps, qui est un peu impliqué dans ces domaines, il tient un peu le même langage. Et il dit en gros, un moment ou un autre, les lois de Moore, donc, qui correspondent à la miniaturisation du silicium, vont rencontrer des problèmes en termes de mise à l'échelle, le scaling des anglo-saxons, classique, c'est-à-dire une mise à l'échelle simplement dimensionnelle. On verra, je mentionnerai la notion de mise à l'échelle fonctionnelle, qui est un concept qui est en train de se mettre en place dans ce domaine. Donc si on reprend ce que dit Horst Stormer, il nous dit qu'il est à peu près convaincu lui aussi que le silicium va avoir un problème. Et puis ensuite, il a une phrase merveilleuse pour la recherche qui est de dire il faut être imaginatif, il faut être ouvert d'esprit. Et c'est comme ça, uniquement comme ça, et éventuellement avec des idées complètement folles, qu'on va réussir à régler les problèmes du traitement de l'information et de la société de l'information dans les années du futur. Donc ça laisse une porte très très grande ouverte. Et donc ça insiste aussi sur le fait que la recherche fondamentale, il est très souvent difficile d'en prédire avec certitude les applications. Alors, si on regarde les grandes tendances de la micro et de la nanoélectronique, la première des choses classiques, c'est la tendance à la miniaturisation. Donc ça, ce sont les lois de Moore. La deuxième des choses classiques, Donc ça, en gros, c'est celle dont je parlais juste avant, vers 2017, 2015, 2020, selon les auteurs, on aura atteint vraiment les limites. Alors, en dimension, mais surtout, très probablement, en coût, et éventuellement en coût énergétique de calcul. Deuxième voie d'évolution, c'est la voie dite plus que Moore. C'est la voie où on hybride sur les puces de plus en plus de technologies hétérogènes. Donc elles sont mentionnées ici, les biochips sont ici par exemple, et puis le type d'application auquel on s'attend quand on fait ça. Et en général, on considère que, ici également, la tendance est lourde, mais que l'innovation va venir des nanosciences de façon générale, aussi bien d'ailleurs pour l'aspect miniaturisation que pour l'aspect diversification. Et ici, je rajouterai que dans les nouveaux diagrammes des gens qui s'occupent du futur de l'électronique, apparaît ici à peu près ce qu'on appelle le billon de Moore, donc au-delà des lois de Moore, et ça fait référence à cette mise à l'échelle fonctionnelle. C'est-à-dire là où on ne pourra plus diminuer la taille classique des dispositifs pour augmenter la densité d'intégration, il faudra trouver une autre solution en gardant cette dynamique de la mise à l'échelle qui est la dynamique fondamentale du profit dans cette industrie. Et ça, c'est vraiment une force très importante qui pousse au développement. Alors, ensuite, jusqu'à maintenant, j'ai parlé essentiellement de l'électronique et un des exemples phares qui sort de ces technologies poussées à l'extrême, c'est le supercalculateur. C'est basé sur des technologies dites top-down ou de lithographie. Ça pèse des tonnes, ça consomme 1,5 mégawatt et ça fait de l'ordre de la centaine de teraflops, peut-être pour le dernier. Alors, il y a une autre façon de prendre le problème. Qui est de considérer un système capable de traiter l'information, et en particulier le vivant, et si on met au sommet de l'évolution le cerveau humain, je ne vois pas de commentaire là-dessus, et qu'on compare les chiffres, on s'aperçoit que la technologie, entre guillemets, de fabrication est complètement différente. Ça pèse 1,3 kg, ça consomme de l'ordre de 10 watts. Alors, si je ne vous ai pas encore endormi, vous êtes peut-être encore à une trentaine de watts. On verra à la fin de mon exposé où vous en serez. Mais c'est l'ordre de grandeur. Et puis, on estime les calculs, toutes choses confondues, à de l'ordre de plus de 100 teraflops. On peut conclure un peu de façon provocative en disant que l'auto-assemblage a déjà, d'une certaine façon, prouvé sa capacité à fabriquer des unités de traitement de l'information efficaces. Alors ça, c'est une façon de relativiser un petit peu les choses et puis d'introduire quelque chose dont je pense Bernadette Vinceau de Vincent a dû largement parler ce matin, qui est l'inspiration dans la vie et dans la biologie pour les technologies du traitement de l'information. Donc je ne vais pas détailler ce diagramme qui est compliqué, mais qui met juste en regard les technologies classiques, les technologies... on ne va pas appeler ça une technologie, ça... Ça serait un peu choquant. Excusez-moi de cet abus de langage. Le bio et la vie, ici, qui montre un peu les échelles. Donc, du neurone aux colonnes de neurones, aux hypercolonnes, aux zones et finalement au cerveau, et le type d'information. Alors, ce qui est assez clair dans ce diagramme, c'est qu'arriver à la quantité d'information qui est traitée par le cerveau, on va pas vraiment arriver avec les technologies classiques à faire quelque chose d'équivalent de façon pratique, c'est-à-dire en particulier avec des échelles à peu près comparables, hein, puisqu'on a vu avant que c'était on comparait une pièce entière avec un cerveau. Et en particulier là, c'est là où interviennent les concepts spécifiques qui sont mis en jeu dans le traitement de l'information dans le vivant, qui sont des concepts de robustesse, d'adaptativité, de redondance, des concepts asynchrones, des concepts de basse consommation, et qui sont aujourd'hui vraiment des voies d'inspiration très fortes pour la communauté des gens du traitement de l'information. Alors ça amène en fait à faire un peu une présentation d'une des directions dans lesquelles le domaine est en train d'évoluer, au travers de la loupe des convergences disciplinaires et en particulier des convergences dites NBIC entre bio, nano, cogno, et en général on rajoute info, mais je l'ai oublié dans le titre là, excusez-moi. Et alors, ce que j'ai cherché à faire, c'est à présenter par rapport à ce filtre des convergences entre ces quatre champs disciplinaires, à représenter quelles sont les différentes échelles qui permettent d'aller du phénomène physique et du matériau, ou du nanomatériau ou du nano-objet, on va y revenir, au dispositif, puis aux fonctions et aux circuits, et enfin au système, et voir où ces convergences risquent d'apparaître. Alors la première des choses qu'il faut mentionner, c'est que cette démarche-là, c'est celle de la démarche de la conception classique de l'informatique ou de l'électronique actuelle, où ici, en fait, on a le silicium et ici, on a le transistor, ici, on a les circuits, puis ici, on a les systèmes. Là, une des premières choses qu'on peut se poser, une des premières questions qu'on peut se poser, pardon, c'est de se demander si on ne peut pas aller un peu plus directement en termes de conception de cette échelle du matériau et du phénomène physique jusqu'au système. Alors, à ce moment-là, est-ce qu'on ne peut pas trouver des paradigmes de calcul qui permettrait de briser cette chaîne de conception pas à pas qui est celle de l'électronique. Alors la deuxième chose qu'on peut mentionner, c'est où interviennent en particulier les convergences aujourd'hui. Le premier endroit où interviennent les convergences et les réflexions autour des convergences, c'est autour des architectures de systèmes, de circuits et des principes de calcul. Donc là, c'est ce que j'illustrais sur le transparent précédent, c'est comment s'inspirer de la façon dont fonctionne un cerveau, pour essayer de tirer des nouvelles idées qui permettent de fabriquer des systèmes artificiels de traitement de l'information. Deuxième endroit où interviennent les convergences, c'est au niveau de l'assemblage. En particulier, comment est-ce qu'on peut assembler des dispositifs ou utiliser des matériaux pour les assembler en dispositifs, en s'inspirant également de toute la richesse des systèmes vivants. Alors, je pense aussi que là-dessus, Bernadette Binsaud a dû s'exprimer. J'y reviendrai un petit peu plus loin. Donc, voilà un peu le cadre général dans lequel on essaie de faire évoluer les nouvelles techniques de traitement de l'information. Et de ce point de vue, l'électronique moléculaire a une place un petit peu particulière, que je vais expliciter tout de suite. Donc, avant d'expliciter cette place, je vais mettre ma définition, entre guillemets, du champ que je considère comme celui de l'électronique moléculaire. Et ce champ-là, c'est celui qui s'intéresse à l'utilisation des propriétés électroniques d'un petit nombre de ces différents objets-là. Donc les molécules, les nanoparticules métalliques ou semi-conductrices, les biomolécules éventuellement, et puis les nanophiles ou nanotubes de carbone. Donc c'est une définition qui est vraiment très, très large et qui, de mon point de vue, se justifie par le fait que ces objets ont un certain nombre de propriétés en commun. Ils sont complètement réglables par la chimie, tous à divers degrés, mais on peut les ajuster par synthèse. On peut les auto-assembler ou en tout cas les utiliser dans des stratégies de type bottom-up. Ces objets amènent des fonctions par eux-mêmes et ils sont en général intrinsèquement quantiques et ils n'ont aucune espèce de propriété a priori qui les amène à être utilisés dans des architectures de calcul classiques de type von Neumann, c'est-à-dire essentiellement des architectures basées sur le binaire. Donc tout ça, ça fait un ensemble de propriétés qui sont vraiment uniques par rapport à et différentes de celles que les matériaux de la nanoélectronique peuvent avoir. Et donc ça, la recherche qui est effectuée sur ces objets-là, et c'est ça la position du champ électronique moléculaire par rapport au domaine de l'électronique, cette recherche, elle est en fait aujourd'hui en train d'essayer de fabriquer un peu un réservoir d'innovation pour l'électronique du futur et pour répondre également au problème de limitation que l'électronique va rencontrer de façon assez inéluctable si on s'en réfère aux deux penseurs que j'ai cités au début. Alors, ce réservoir d'innovation, en fait, Il y a déjà des applications qui sont au stade pré-industriel à divers niveaux. Alors on peut citer des solutions qui utilisent de l'auto-assemblage local et des modifications chimiques locales, par exemple au travers de la société Alchimère. On peut citer également des mémoires qui mettent en jeu quelques nanotubes de carbone ici qui sont suspendus. Et quand on applique un potentiel électrostatique sur cette grille, les nanotubes sont déformés, amenés au contact et donc fonctionnent sous forme d'interrupteur. Donc ça permet de fabriquer des mémoires. Et il se trouve que ce sont des mémoires nanomécaniques qui sont très peu sensibles aux irradiations. Donc ce sont des mémoires naturellement durcies et développées par la société Nantero. Alors je pourrais élargir les exemples en parlant des dispositifs électroluminescents organiques ou en parlant des interrupteurs pour la logique programmable que fait la société NEC. Donc ces applications sont en cours de développement et de tests pré-industriels. Même si je voulais vous parler essentiellement de recherche fondamentale, cette recherche a des buts appliqués et dans certains cas est déjà en train d'aboutir à ce qui sera peut-être des produits. Alors je reprends le schéma que j'ai présenté tout à l'heure qui va entre les matériaux et les phénomènes physiques qui va depuis donc matériaux phénomènes physiques jusqu'au système. Et pour essayer de vous montrer où vont apparaître les dispositifs de demain et puis peut-être aussi les possibilités d'application. Donc on part des objets que j'ai mentionnés, molécules, nanotubes, nanophiles. On passe par l'aspect dispositif et donc la question qui se pose là, c'est comment connecter efficacement ces objets-là, question qu'on se posait déjà en 2001 et qui n'est pas résolue dans sa généralité. On va le voir un peu plus tard. Deuxième question, comment de ces dispositifs pris à l'unité, on peut fabriquer des circuits qui mettent en œuvre plus d'un dispositif? Donc là, ce sont les problèmes d'assemblage qui sont importants. Puis finalement, au-delà d'une fonction, comment est-ce qu'on peut assembler des fonctions pour avoir un système? Alors, évidemment, là apparaissent des applications possibles qui vont être complètement différentes et des questions qui sont différentes. Donc ici, ça va être le domaine où vont apparaître les systèmes. Alors, système on chip, c'est donc SOC, c'est système sur la puce. Ça fait référence à cette diversification des techniques dont je parlais. Je donnerai un exemple tout à l'heure. On peut mentionner, par exemple, les systèmes nanoélectromécaniques, les capteurs ou des applications en optronique basées sur ces objets-là. Deuxième niveau, il y a à ce niveau-là ici, la question importante à résoudre, c'est comment faire une interface entre des objets qui sont extrêmement petits et notre monde macroscopique. Et donc là, il y a un problème il y a 7, 8, des fois 9 ordres de grandeur en termes de taille qu'il faut combler. Et là, les applications auxquelles on s'attend sont surtout, dans un premier temps, des applications de type mémoire. Alors, je reprends aussi ce que je vous avais mentionné tout à l'heure. Il y a des recherches qui essaient de mettre en œuvre des nouvelles façons de calculer. Et pour aller un peu plus directement de l'objet au système. Et donc, à ce niveau-là, on va mentionner ces nouveaux paradigmes de calcul. Et puis, c'est là qu'on verra apparaître aussi les techniques d'auto-assemblage, en particulier biodirigées ou bio-inspirées. Et alors, à ce niveau-là, les questions qui se posent, c'est vraiment des questions qui sont réellement en rupture par rapport aux technologies actuelles, avec donc des architectures innovantes, la mise en place des stratégies de fabrication bottom-up et puis évidemment toujours ce problème de l'interface nano-macro. Donc, la première question qui se pose, c'est si on a un objet extrêmement petit comme une molécule, est-ce qu'on sait réellement le contacter? Est-ce qu'on sait réellement mesurer ses propriétés? Et est-ce qu'on sait dire à une structure chimique donnée correspond une fonction définie? Ça a été l'objet, et c'est toujours l'objet, d'une recherche intense qui a démarré dans les années 95 par des premières expériences pionnières qui venaient de différents endroits, dont en particulier le groupe de Christian Joachim à Toulouse, en lien avec le groupe d'IBM à Zurich. Et c'est devenu possible en fait par l'invention du STM, donc qui remontait à une dizaine d'années auparavant, et qui permet de contacter une molécule dans une géométrie comme celle-ci. Alors, au cours des 8, 7, 8, 10 dernières années, il y a un certain nombre de techniques qui sont apparues, qui permettent de contacter une ou quelques molécules. Je vais vous donner un exemple un peu plus précis juste après. Je vais simplement mentionner ici que le problème est conceptuellement très simple. Il suffit de fabriquer deux électrodes qui soient séparées de la taille de la molécule et qui soient suffisamment petites latéralement pour qu'on puisse effectivement contacter une ou quelques molécules. Alors ça paraît très simple comme ça. En fait, c'est pas extrêmement facile. Et une des techniques qui a fait avancer pas mal le domaine, c'est cette technique des jonctions à cassure qui a été mise au point à Saclay dans sa version microfabriquée. Donc on fabrique un pont suspendu comme ceci. Les dimensions, c'est 2 microns ici, et le pont est fait en métal avec une constriction ici qui fait de l'ordre de 80 nanomètres par 80 nanomètres. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on tord ce pont suspendu et on l'amène à la rupture. Donc il est sur un substrat déformable, donc on déforme le substrat, on tord le pont, on casse le pont, et à ce moment-là, on libère comme cela deux électrodes dont l'espacement est contrôlable extrêmement finement, puisque à basse température, on a un contrôle qui est de l'ordre du picomètre en termes de position par rapport à un plan de référence et qui peut rester stable pendant des heures. Donc ça, c'est vraiment un outil de recherche qui permet de faire des choses intéressantes. Et alors ensuite, on introduit des molécules, et pour introduire ces molécules, il faut qu'elles aient un groupement qui va leur permettre de s'auto-assembler, de réagir chimiquement avec les surfaces métalliques en regard. Donc on introduit un petit nombre de molécules de façon à avoir beaucoup moins qu'une monocouche moléculaire. Et ensuite on joue sur la rugosité intrinsèque des électrodes, qui fait que quand on va refermer le gap, à un moment donné, il y a une électrode qui se trouve près de l'électrode qui est en face, avant les autres, à cause de la rugosité. Et ça permet d'enregistrer des caractéristiques courant tension, qui sont en fait assez spectaculaires, puisqu'on voit qu'on peut faire passer quelques dizaines de nanoampères sans difficulté au travers d'une seule molécule, d'une part. D'autre part, qu'il y a des marches dans la caractéristique courant tension qui correspondent en fait au niveau moléculaire, aux orbitales moléculaires. Et par ailleurs, on s'aperçoit que si on joue sur l'espacement entre les électrodes, ce que l'on peut faire simplement en tordant plus ou moins le substrat, on peut donc passer d'un état comme celui-ci, avec où on a une dizaine de courbes qu'on a enregistrées, et puis arriver ici, on a réduit l'espacement interélectrode de une fraction d'angström, 0,3 angström, ce qui est vraiment pas beaucoup, mais ça suffit quand on regarde à induire éventuellement une torsion ou alors un changement de site d'absorption de la molécule, et ça change du tout au tout les caractéristiques de transport. Donc on tire de ces expériences deux enseignements majeurs. Un premier, c'est qu'il est possible de mesurer des molécules et que l'on voit apparaître dans les caractéristiques la trace de la structure moléculaire. Et un deuxième, qui est que le contrôle dimensionnel pour jouer avec des molécules est quelque chose d'extrêmement doit être extrêmement fin, puisqu'il faut contrôler à bien mieux que 0,3 angström si on veut avoir quelque chose de reproductible. Alors ça, c'est un peu un coup d'arrêt plus ou moins définitif pour des applications, au sens où on les connaît aujourd'hui, puisque d'une molécule mesurée à la voisine, son environnement et la distance exacte va être différente, et de ce fait, on va avoir des résultats, on va avoir un comportement électronique qui va être différent. Alors, on peut stabiliser ces effets en regardant à basse température. Je vais passer là-dessus et sur le fait qu'on peut faire un peu une spectroscopie des états de la molécule. On tire aussi de cette spectroscopie une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on est content, on a réussi à faire cette spectroscopie d'une molécule unique. Spectroscopie qui correspond à l'effet tunnel inélastique. La mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, dans cette spectroscopie, on récupère aussi les fluctuations quantiques et les interférences quantiques entre les électrodes directement. Donc, on a la trace de la microstructure des électrodes qui vient, entre guillemets, polluer le signal de la molécule. Donc on ne peut pas penser la molécule comme apportant des niveaux électroniques bien définis et définissant de ce fait un dispositif. On est obligé de penser la molécule comme on est obligé de penser à ce système comme à une jonction métal, molécule, métal, et on ne peut pas dissocier la molécule de ses électrodes, sinon on change le système. Et donc ça, c'est vraiment ça sera vraiment un problème pour des applications. Je vais passer sur cette partie-là. Et ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que les détails de la géométrie et de l'interface molécule-métal sont absolument cruciaux et dominent le signal. Alors, il y a une deuxième façon de prendre le problème, qui est de se dire, là, j'avais une molécule qui était absorbée chimiquement par une liaison chimique sur la surface. Liaison chimique covalente, donc entre guillemets un mélange d'états. Donc il est peut-être normal finalement que la molécule, je ne puisse pas la dissocier des électrodes. Donc je peux attraper le problème différemment et me dire, bon, je ne fais pas une liaison chimique covalente, je fais une liaison faible, je rajoute en quelque sorte des groupements isolants entre la molécule et le métal, de façon à pouvoir définir effectivement les niveaux de la molécule comme si elle était isolée dans l'espace. Donc ça, ça serait une approche où on pourrait se dire finalement le rôle des électrodes va être différent. Et alors en fait, quand donc des chercheurs américains autour de Paul McEwen en particulier ont réussi ceci avec une technologie de jonction un petit peu différente, je ne vais pas rentrer dans le détail, ils ont mesuré les caractéristiques de transport d'une molécule de C60. Et alors ce qu'ils ont observé ici, c'est qu'effectivement les niveaux de la molécule intervenaient, qu'ils étaient un petit peu plus faciles de les retrouver, mais ils ont aussi... alors d'abord ça ne marche qu'à très basse température, première chose, et deuxième chose, ça dépend aussi énormément de l'environnement parce que entre guillemets la capacité entre la molécule et le métal va être extrêmement dépendante de l'environnement. Alors pour autant, dans ce genre de physique là qui se passe, donc c'est vraiment de la physique là, il y a une molécule au milieu mais c'est de la physique, et dans cette physique là à très basse température on voit apparaître des effets qui sont assez étonnants pour des chimistes. Puisque, par exemple, cette molécule de l'oligophénylène-vinylène, là, on peut la placer dans 9 états redox différents, ce qui n'est évidemment pas faisable en solution. Et là, c'est dû au fait qu'on a un écrantage extrêmement efficace par le métal des électrodes. Et donc, ça donne accès à des phénomènes physiques nouveaux. Est-ce qu'on saura les utiliser un jour? Est-ce qu'on saura faire ça à plus haute température aujourd'hui? Je pense qu'il y a un peu d'années devant nous. De nouveau, ici, on doit garder en tête que sur une molécule unique, si on veut avoir des applications, il va falloir maîtriser à minima la dimension, une dimension inférieure à l'angström, ce qui technologiquement est très loin devant nous. Alors, donc, on peut tirer des conclusions sur les dispositifs à base de molécules en disant que, du point de vue du physicien optimiste, il y a des effets nouveaux, donc c'est très intéressant. Donc il y a des effets d'écrantage locaux par les électrodes qui permettent d'avoir un grand nombre d'états redox. Il y a des effets de couplage électromécanique qui sont extrêmement intéressants parce que si, évidemment, si on déforme une molécule, on change ses orbitales, donc on change le transport. Et à cette échelle-là, c'est extraordinairement efficace et c'est vraiment une voie de recherche extrêmement intéressante et passionnante. Bon, de façon générale et plus de façon plus réaliste du point de vue d'application, il faut être bien conscient que il va falloir vraiment une révolution qui est pas dans des temps prédictibles en termes d'architecture et de contrôle dimensionnel ou énergétique. Je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais il est en fait très important pour qu'on puisse utiliser une molécule un jour pour faire du calcul. Alors. Évidemment, la conclusion à laquelle on peut arriver aussi, c'est de dire si on n'utilise pas une seule molécule, mais une assemblée de molécules, on va avoir des effets de moyenne qui vont nous rattraper un peu du point de vue des applications. Alors, je vais mentionner là deux exemples d'architectures qui sont vraiment des architectures nouvelles qui pourraient s'accommoder d'une variation très importante d'une molécule à la suivante. Alors, un premier exemple, c'est un ensemble de nanoparticules en interaction avec des molécules. Et ensuite, cet exemple-là est programmé, donc on met un signal sur A et B, et on lit le signal en 1. Et si le signal en 1 n'est pas celui que l'on veut, ben on modifie le signal sur A et B jusqu'à ce qu'on ait le signal qu'on veut en 1, et on programme comme ça le système. On n'a pas besoin de contrôler la topologie, c'est simplement une programmation, entre guillemets, de type neuromorphique. Alors, ça marche conceptuellement, ça marchouille un peu expérimentalement, suffisamment pour faire des beaux papiers, mais le coût de programmation, le nombre d'essais qu'il faut faire pour arriver à ce que ça marche est exorbitant aujourd'hui. Donc ça risque de rester une belle invention théorique. Une deuxième approche dont l'avenir nous dira si elle a un sens, c'est d'utiliser, de coder l'information dans l'hamiltonien de la molécule et de modifier l'hamiltonien pour faire un calcul dont le résultat est finalement cette modification de l'hamiltonien. Donc ça, c'est une approche qui est proposée par le groupe de Christian Joachim, André Gourdon, et auquel participe également Gérald Dujardin du LPPM, ici. Là, vraiment, on touche au cœur de ce qui décrit une molécule pour nous. Elle est décrite par son hamiltonien, et à ce moment-là, si on est capable de le perturber, on est capable d'avoir un signal lié à cet hamiltonien. Alors, je vais être très honnête avec vous, je me suis penché sur les papiers théoriques qui fondent un peu ce domaine-là, et j'estime que je n'ai pas tout compris. Il paraît que je ne suis pas le seul, mais j'avoue humblement que je ne peux pas vous expliquer le concept plus précisément que ce que je viens de faire. Alors, pour expliquer, pour montrer un exemple de l'intérêt qu'il y a à utiliser des molécules en parallèle et non plus individuellement, il y a tout le domaine des mémoires. Alors, ce tableau un peu bizarre, là, c'est ce que l'industrie de l'électronique produit comme tableau prédictif de ce qui va arriver. Alors, c'est pas la peine de lire toutes les lignes. Pour chacune des technologies différentes, là, il y a une liste de critères qui disent c'est très bien, moyen, quand est-ce que ça va être bon, etc. Tout ça, ça se trouve en détail dans ce papier-là, ou de façon plus générale, sur le site de l'ITRS. Et l'ITRS, c'est International Technological Roadmap for Semiconductors. Et là, les gens expliquent comment va être le futur dans leur domaine dans les quelques années à venir. Donc par rapport à ce genre de table, on a vu apparaître au cours des 3-4 dernières années un grand nombre d'essais pour utiliser les propriétés des molécules. Donc Infineon a été un des premiers à dire qu'il pouvait utiliser des systèmes de molécules qui changent, dont la résistance, de couches moléculaires dont la résistance change pour coder des états, le tout hybridé sur du CMOS. Ensuite, à Cornell, l'équipe de Ganguly a proposé d'utiliser ce qu'on appelle des mémoires à nanoflash, qui sont des mémoires où on code l'information en stockant des charges dans des nanocristaux qui sont sur un oxyde de gris. Et ils montrent qu'en utilisant des molécules de C60 au lieu des nanocristaux, on gagnerait en nombre de charges stockées, donc en énergie nécessaire pour coder l'information. Et puis les deux exemples qui sont les plus avancés, c'est l'utilisation de nanophiles d'antimonure d'indium, si je me rappelle bien, sur lesquels des molécules sont absorbées et donc dont les états redox changent, et le nanophile est sensible à ce changement d'état redox puisqu'il est dans une configuration de transistor. Et pour un état redox défini, la tension de seuil du transistor est définie. Et donc si on change l'état redox, on change la tension de seuil. Donc c'est de cette façon-là qu'on peut coder en tension différents niveaux d'énergie. Puis enfin, il y a la société ZetaCore qui a rempli des RAM, donc des mémoires à base de capacité, avec des molécules, et qui montre que utiliser des molécules pour remplir ces capacités, ça permet d'augmenter énormément le temps de stockage, puisque là, il y a 15 nanosecondes, c'est le temps classique avec les capacités qu'il y a dans toutes les DRAM des ordinateurs, et eux montent à plus de 10 secondes. Et il y a vraiment, pour les gens de l'électronique, le produit rêvé, c'est la mémoire à la fois rapide et permanente. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent la mémoire universelle. En gros, ce sont des clés USB, mais qui auraient la même rapidité d'accès que les mémoires qu'on utilise dans les ordinateurs. Parce que les clés USB, aujourd'hui, sont des mémoires qui sont en fait très lente, et c'est pour ça qu'il y a ce genre de recherche. Alors, je vais passer ça. Je vais faire un petit éclairage sur les nanotubes de carbone, dont le potentiel d'application est beaucoup plus grand aujourd'hui que ce que je vous ai expliqué avant, mais qui pose les mêmes questions de fond, à la fois en termes de liens entre les communautés qui vont interagir, en termes de questions de physique qui se posent, puisque ces objets-là sont aussi des objets dont les niveaux sont définis par leur structure, sont aussi des objets pour lesquels la cohérence quantique s'applique dans bien des cas, et sont aussi des objets où il y a un couplage fort entre leurs propriétés mécaniques et leurs propriétés électriques. Alors ces objets donc sont des objets qui sont décrits ici, je pense que vous en avez tous entendu parler. Ce sont des feuillets de graphène repliés sur eux-mêmes et dont le fait d'être repliés sur eux-mêmes, ça donne lieu à une quantification des niveaux donc dans la direction de repliement. Et ça fait apparaître une structure de bande. Et cette structure de bande, en fonction de la façon dont la feuille de graphène est repliée sur elle-même, donne lieu à soit des nanotubes métalliques, soit des nanotubes semi-conducteurs. Avec un gap direct de l'ordre de 0,7 électronvolts qui est directement inversement proportionnel au diamètre. Et ces nanotubes existent aussi comme des multiparois. Alors, ils ont des propriétés absolument étonnantes. Donc, ils sont métalliques ou semi-conducteurs. Le gap dépend de la dimension directement avec cette relation. Ils ont des propriétés de transport balistique sur des distances qui peuvent aller jusqu'au-delà du micron. Les densités de courant accessibles sont extrêmement élevées. C'est plusieurs ordres de grandeur au-dessus de ce que le cuivre peut accepter, par exemple. Le diamètre, on en a parlé. La longueur peut aller jusqu'à quelques millimètres, voire centimètres maintenant. La conductivité thermique est remarquable. Hein, elle est comparable, voire supérieure à celle du diamant. 6000 watts par Kelvin par mètre. Le module de Young est de l'ordre du terapascal. Extrêmement élevé aussi. La contrainte maximale, c'est 0,11% à 1 vol, ce qui n'est pas trop élevé. Et la vitesse de Fermi est très élevée. Ce qui est intéressant dans ces propriétés, c'est de les combiner. Et c'est leur combinaison qui permet justement de faire apparaître tout ce spectre d'applications. Alors si on prend par exemple la conductivité thermique, la densité de courant, le caractère balistique, et le caractère métallique avec les dimensions, et bien on a naturellement une solution possible qui apparaît pour les interconnexions dans la technologie classique de l'électronique. Voilà un exemple. Un autre exemple pourrait être pour les systèmes nano-électromécaniques de combiner le caractère semi-conducteur avec le caractère de module de Young extrêmement élevé. J'en reparlerai un petit peu après. Donc, ils sont considérés pour un grand nombre d'applications. Si on fait un petit éclairage sur les transistors à effet de champ, le principe est très simple, c'est de prendre un nanotube et de l'utiliser comme canal du transistor à effet de champ. Donc, le principe est de connecter ce nanotube avec une source, et donc le nanotube est ici, hein, ou ici, je vais expliquer ici, avec une source et un drain. Donc les électrons circulent dans le nanotube comme ça, et en fonction du potentiel électrostatique appliqué sur cette grille, on change les conditions on change la population effective dans le canal, et de ce fait, eh bien, on passe d'un état où le nanotube est très bien conducteur à un état où il est très bien isolant. Donc ça, c'est le principe de base des transistors effet de champ. Il n'y a rien de vraiment nouveau ici, si ce n'est que quand on regarde dans les détails, la physique se passe surtout au contact d'injection, en particulier dans ces géométries-là. Alors, quand on regarde ces chiffres-là et qu'on les compare aux chiffres de la microélectronique, en fait, ce sont d'excellents chiffres. Ces deux expériences datent de 2002. Le premier transistor à base de nanotubes a été réalisé en 1998. Donc, en 4 ans, les différentes équipes pionnières, en particulier IBM et Stanford, ont été capables de produire des dispositifs qui ont des performances qui sont déjà tout à fait comparables, voire même meilleures que celles de bons dispositifs de la microélectronique. Alors, ça a évidemment lancé un grand nombre d'études, amené beaucoup de prédictions sur leur utilisation. Il faut rester quand même très, très prudent par rapport à ces perspectives, en particulier parce que même si les performances sont bien meilleures à géométrie comparable que celles du silicium, la technologie pour fabriquer des composants à base de nanotubes n'existe pas. Et ça peut tout à fait suffire à ce qu'il n'y ait jamais de composants à base de nanotubes dans l'électronique, au moins telle qu'on la connaît, puisque le coût d'adaptation de la chaîne technologique serait bien supérieur au gain in fine. Néanmoins, il y a des domaines dans lesquels ces objets sont extrêmement intéressants. Leur caractère balistique, par exemple, leur faible inductance et leur... faible capacité intrinsèque les rend très très intéressants pour les aspects de dispositifs haute fréquence ou alors pour aller adresser par exemple une molécule puisqu'à ce moment là on prendrait avantage du fait qu'ils ont une dimension qui est intrinsèquement compatible avec celle de molécule. Alors je vais passer sur le fait qu'il y a eu beaucoup d'agitation dans le domaine des transistors à nanotubes les gens ont vraiment cherché à améliorer énormément et aujourd'hui, il y a des transistors qui fonctionnent vraiment très bien et ça reste l'objet d'un grand nombre de recherches. Néanmoins, pour illustrer ce que je disais sur l'aspect technologique des choses, j'ai repris un transparent de Franz Kreupel d'Infineon où il faisait la liste de ce qui doit être simultanément réalisé pour qu'il y ait une technologie à base de nanotubes. Et cette liste est très longue. Un certain nombre de points ont été résolus. C'était dans le transparent précédent que j'ai passé un peu vite, mais qui m'amènerait à vous parler probablement beaucoup trop longtemps. Et parmi ces points-là, il y en a un qui n'est pas résolu aujourd'hui, qui est celui du placement exact et volontaire et déterministe auquel il était fait référence dans l'introduction, des nanotubes de carbone. Donc là, c'est un endroit où, en particulier, on cherche à mettre en place des méthodes d'auto-assemblage, et en particulier parce que ça serait des méthodes qui seraient peu coûteuses. Je vais expliquer en montrant des exemples. Et puis, une deuxième conclusion qu'on tire de tout ça, c'est que c'est peut-être pas des applications où il y aura énormément de densité d'intégration qui vont être les premières dans lesquelles les nanotubes seront utilisés. Mais en particulier, ça risque plus probablement d'être des applications à faible densité d'intégration. Alors, dans ces exemples d'applications à faible densité d'intégration, j'en ai listé 5. Donc il y a déjà une première que je vais mentionner très très brièvement qui est l'amélioration des performances de l'électronique organique. L'électronique organique aujourd'hui, elle se matérialise par deux choses, surtout une, en fait les dispositifs organiques, les OLED, alors c'est organique, les diodes électroluminescentes organiques, je vais y arriver. Et ces diodes électroluminescentes organiques, il y en a dans un certain nombre d'affichages, par exemple de téléphones portables. Leur développement serait beaucoup plus grand si on savait très bien faire des bons transistors organiques avec une bonne mobilité. Et aujourd'hui, c'est ce qui gêne, parce que la maîtrise des polymères est quelque chose de compliqué. Je crois qu'on en aura une illustration juste après. Et néanmoins, si on rajoute des nanotubes dans ces polymères, on ne simplifie pas le problème des polymères, on le complique probablement, mais on améliore très notablement les propriétés électroniques. Et c'est peut-être ce qui va faire qu'on va voir apparaître une électronique qui va être à la fois souple, organique, et qui pourrait très bien apparaître dans un premier temps dans ce qu'on appelle les dispositifs RFID. Donc ce sont les étiquettes, alors dont un exemple simple, c'est d'avoir sur tout produit qu'on achète dans un supermarché une telle étiquette, et quand on passe à la caisse, que la caisse enregistreuse lise l'étiquette à distance sans qu'il y ait besoin de décharger, de poser sur la caisse enregistreuse. Donc, dans ce domaine-là, il est tout à fait possible que la combinaison des nanotubes avec l'électronique organique fasse faire un pas décisif. Deuxième exemple, ce sont les sources lumineuses. Les nanotubes sont conducteurs. Si on fait passer suffisamment de courant, ils émettent de la lumière et ça fait des sources de lumière blanche, comme on le voit ici. Troisième exemple, c'est tout ce qui est affichage, soit pour l'émission des porteurs qui excitent les chromophores, soit comme filtre. Donc là, on a un exemple d'un vitrage qui peut être soit opaque, soit transparent en fonction de l'état des nanotubes, de l'état de charge des nanotubes qui sont posés sur le vitrage. Il y a deux autres exemples, que sont les capteurs et biocapteurs, et puis les systèmes nano-électromécaniques. Alors, les capteurs et biocapteurs, pourquoi ? Simplement parce que le nanotube a tous ses atomes en surface. Donc, on s'attend à ce qu'il soit extrêmement sensible à une perturbation sur sa surface. Et de fait, quand on met un nanotube dans une configuration comme celle-ci, entre deux électrodes, si on absorbe sur la surface du nanotube un objet dont la charge va varier, on va avoir un dispositif qui va être extrêmement sensible en charge. Et la sensibilité en charge peut être de quelques charges. Donc, on peut espérer aller avec une enzyme absorbée, par exemple, sur un nanotube, aller à l'activité enzymatique unique. Ce qui est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors, pour réussir à faire ces capteurs, et tirer parti de la sensibilité, on tombe sur le problème de la fonctionnalisation et de la fonctionnalisation maîtrisée. Donc il faut pour ça avoir la couche sensible, donc il y a des différents systèmes qui sont mentionnés ici. Je ne vais pas rentrer dans le détail, simplement il y a vraiment un très grand effort de recherche qui est fait pour tirer parti de ces propriétés des nanotubes modifiés par des biomolécules, alors que ce soit des protéines, que ce soit des antigènes avec une reconnaissance pour des anticorps, ou des enzymes. Il y a eu tous les cas de fait. Et il y a, en fait, les premiers exemples sont des exemples qui sont même dans le domaine des capteurs simples, puisque le premier exemple de dispositif commercialisé à base de nanotubes est commercialisé par la société Nanomix, et c'est un capteur d'hydrogène. Donc, voilà ce que je voulais dire sur les capteurs. Sur les NEMS, donc système nano-électromécanique, c'est le système nano-électromécanique le plus simple, c'est l'accéléromètre qu'il y a dans les airbags de voiture, qui est basé sur une petite membrane de silicium suspendue qui, s'il y a une accélération trop forte, vient au contact et déclenche l'airbag. Alors, ces systèmes-là sont aussi des systèmes qui sont utilisés pour commuter les bandes dans les téléphones portables. Et le système de commutation des bandes dans les téléphones portables, c'est un des systèmes qui occupe le plus de place dans tout le téléphone. Donc les gens de l'industrie du téléphone ont vraiment envie de réduire ces dimensions-là. Et donc d'aller des MEMS, micro-électromechanical system, aux NEMS, nano-électromechanical system. Et les nanotubes sont étudiés dans ce cadre-là parce que, compte tenu de leurs propriétés de modules Young, d'élasticité, de robustesse, on peut les suspendre et les faire vibrer à très haute fréquence, donc dans la gamme des gigahertz, qui est la gamme qui intéresse les gens des télécoms. Ça c'est un peu la reprise donc il y a des champs d'application possibles qui sont listés ici. Il y en a un qui est très intéressant du point de vue fondamental, qui est aussi que le nanotube, c'est un objet dont on peut espérer qu'il nous permette d'aller voir in fine la quantification du mouvement. En amplitude, puisque quand on regarde les chiffres, c'est quelque chose qui pourrait être faisable. Alors, ce que je voulais illustrer ici, c'est, bon, il y a effectivement encore des difficultés, mais c'est qu'il y a aussi, avec ces objets-là, de nouveau, l'apparition d'une physique nouvelle. Donc, par exemple, Adrien Barthold à l'ENS à Paris a montré qu'il pouvait utiliser un nanotube suspendu comme axe de rotation d'une petite palette de métal. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'il n'y a quasiment aucune friction dans la rotation, parce qu'il a utilisé un nanotube multiparoi, ce qu'il a fait, c'est qu'il a libéré les parois internes en ne tenant que les parois externes. Alors, je ne sais pas si je m'exprime bien. Il a pris donc les parois internes, la palette est fixée sur les parois internes, et les supports extérieurs tiennent les parois externes. Donc les contacts qu'il y a sont simplement des contacts physiques entre la paroi externe et la paroi interne. Et donc cette espèce de palier naturel est un palier en quelque sorte graphite-graphite, et c'est une des choses qui se fait le mieux en termes de réduction de friction. Un autre exemple ici, c'est la combinaison d'un transistor avec un système nano-électromécanique. Et donc le transistor en tant que tel détecte sa déformation, et avec des forces qui sont extrêmement faibles. Dans leur premier essai, ils sont à peu près à un ordre de grandeur et demi du record absolu de détection de force, toutes technologies confondues. Et il y a plusieurs ordres de grandeur à gagner dans cette technique-là. Un autre exemple sur lequel on a travaillé à Saclay, c'est de fabriquer des jonctions tunnels déformables. Alors ça permet d'avoir en fait une commutation entre un état on et un état off qui est plus rapide qu'une exponentielle, hein, puisque la jonction tunnel se déforme au fur et à mesure que l'épaisseur de la barrière tunnel diminue au fur et à mesure qu'on rapproche le nanotube de la surface. Dernier exemple que je mentionnerai là, c'est celui de particules d'indium qui peuvent être déplacées sur un nanotube de façon reproductible, vers l'avant, vers l'arrière. Et donc ce que Zettel est en train de faire en ce moment, c'est un moteur à cliquer. Il déplace sa particule, il a mis deux nanotubes comme ça, et il déplace une particule le long de mon doigt gauche. Et donc quand la particule arrive au bout, elle passe sous le nanotube ici, elle le soulève, puis ensuite il la rappelle, il redescend et ainsi de suite. Donc il transforme le mouvement longitudinal en un mouvement vertical à cette échelle du nanotube. Alors, donc, pour que... je suis très très bavard, définitivement. Je vais conclure rapidement. Donc, pour qu'on tire parti de tout ça, il y a un certain nombre de conditions à réaliser qui sont la nécessité d'interfacer avec le CMOS et avec les technologies actuelles. La deuxième chose importante, c'est de développer une simulation qui soit prédictive. Ça a été mentionné. C'est tout à fait vrai. Et c'est quelque chose c'est très enthousiasmant parce que c'est en train d'apparaître dans ce domaine. Et j'aurais pas du tout dit ça il y a ne serait-ce que 3-4 ans. Et puis évidemment, il y a un point à mentionner qui n'est pas négligeable du tout, c'est qu'il y a des risques associés à l'utilisation de ces objets. Ces risques-là, il faut mener en parallèle la recherche sur leur réalité et leur dangerosité. Hein. Et donc il y a dans un certain nombre d'endroits, dont le CEA, ces recherches sont menées en parallèle pour savoir si on pourra effectivement développer ces technologies. Alors, je vais mentionner le problème de l'assemblage en disant que finalement ce problème c'est le suivant. C'est que tout ce que je vous ai expliqué c'est un peu sur la dimension. Alors en termes de dimension c'est dans ces gammes-là, 10 nanomètres, puis en termes de nombre d'objets c'est de l'ordre de 1. Donc c'est pas très intégré en fait. Hein. Et les technologies de l'électronique, au fur et à mesure qu'elles diminuent les dimensions, elles s'intègrent plus. Donc le problème c'est comment est-ce qu'on va de là à là. Et ce problème-là, il y a deux façons de l'aborder. Il y en a une première qui est d'assembler les nanotubes en solution, en leur faisant reconnaître localement une surface. Et le deuxième problème, c'est de faire croître les nanotubes à la bonne place. Alors si on fait ça, faire croître les nanotubes à la bonne place, il y a plein d'exemples ici. C'est la voie préférée des industriels, parce que c'est ce qu'ils connaissent par ailleurs comme technique. Ça s'associe finalement assez bien avec les technologies de la lithographie. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est probablement par là que, industriellement, ça se déplacera. 5 minutes ? Bon. Alors, maintenant, l'assemblage en solution, bon, il y a différentes techniques. Je vais en montrer une, en expliquant comment on fait. Donc, on va fonctionnaliser localement la surface, et cette surface, on va lui donner donc des fonctions chimiques, qui sont les fonctions qui sont mentionnées ici. Alors, si on arrive à faire vraiment une couche monomoléculaire, les fonctions chimiques sont parfaitement définies. On a soit des amines, soit des ammoniums. Et il se trouve que les nanotubes, en solution, ont une affinité particulière pour les groupements amines ou les groupements ammoniums. Et donc ça nous permet de déposer aux endroits où on a fonctionnalisé les nanotubes qui apparaissent ici en blanc. Et à partir du moment où on sait où ils sont, on peut les recontacter facilement en faisant des électrodes ici et ici. Donc, on arrive à faire comme ça un certain nombre de composants. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vais poser la question simplement de savoir comment on peut aller un cran plus loin. Ce que je vous ai montré là, c'est qu'on utilise des techniques de lithographie. On fabrique localement sur une surface, par exemple comme ça, ici une zone qui va servir de velcro. On trempe cette surface dans la solution de nanotubes et les nanotubes se déposent exactement on a voulu. Mais on est défini par la lithographie en termes de dimension. Donc on n'a rien gagné par rapport aux techniques classiques. Alors comment est-ce qu'on peut aller vraiment vers de l'assemblage? Alors pour aller vraiment vers de l'assemblage, il y a une première possibilité qui est d'utiliser de la lithographie à base de copolymère bloc. Ça sera peut-être évoqué après. Non? Bon. De la lithographie aussi à base de copolymère bloc, mais cette fois un peu plus intelligente avec une génération de formes aléatoires. Puis il y a une autre façon de faire qui est prendre avantage de ce que la nature nous a donné, qui est vraiment très évolué, pour utiliser par exemple la régularité de couches de protéines transmembranaires. Donc ça c'est un travail qui a été fait par Uwe Sleiter à Vienne, ou d'utiliser des acides nucléiques ou des virus. Alors, pourquoi utiliser des acides nucléiques? Il y a un papier absolument fabuleux qui est sorti il y a un mois et demi dans Nature, par Rothemund, qui a signé ça tout seul, qui a fait un travail extraordinaire. Il a fabriqué des brins d'ADN très très longs, Et il les a réellement programmés pour qu'ils se... Alors, en utilisant des espèces de petites agrafes très courtes d'ADN, il arrive à replier ces brins d'ADN dans toutes ces formes-là. Donc là, vous avez la programmation, et là, vous avez la réalisation. Donc, ça, c'est une vraie image. Et ça, c'est ce qu'il avait calculé sur son ordinateur. C'est absolument extraordinaire, parce qu'il a... Là, j'ai choisi que ces exemples-là. Il a dessiné la carte des continents. C'est vraiment un travail fabuleux qui prouve qu'on peut contrôler la forme des brins d'ADN de façon absolument remarquable. Donc ensuite, l'imagination est simple. C'est de se dire, j'attache à cet endroit-là des nanotubes et j'amène, par exemple, à cet endroit-là, les matériaux pour connecter le nanotube. Donc le schéma est très simple. Alors cette idée-là avait été travaillée dans un projet européen il y a 3 ans et Kiren avait montré en particulier qu'il était possible d'immobiliser un nanotube sur un brin de polymère et en immobilisant ce nanotube, ensuite de faire croître une métallisation autour du brin de polymère, de le contacter et d'en faire un transistor. Mais c'était à cette époque uniquement un brin de polymère avec un contact d'entrée, un contact de sortie. Et puis l'utilisation d'une grille en face arrière. Alors, le problème pour aller plus loin, c'est comment combiner un peu ces deux choses-là, et en particulier, comment rajouter la notion de branchement. Puisque avec juste un objet unidimensionnel, on n'a pas de branchement. Donc, pour aller vers le branchement, c'est un travail sur lequel on s'est lancé, et on a cherché à mettre au point en particulier des systèmes de branchement à base d'ADN. Alors, comme je suis extrêmement bravard, je vais vous mentionner juste le principe. Donc on fabrique une structure comme celle-ci, avec 3 brins d'ADN doubles ici, 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 une structure rigide en T au centre, et on programme les brins d'ADN à proximité du centre en rajoutant dessus des molécules de biotine qui vont nous servir à accrocher les objets par la suite. Donc ces objets sont bien, voilà la vérification qu'on arrive à faire des objets à 3 branches très longs, ce qui est vraiment la partie difficile, et ensuite que quand on rajoute des objets qui sont fonctionnalisés pour reconnaître les parties centrales où il y avait les biotines, ces objets, donc là en l'occurrence des nanoparticules et ici un nanotube, donc là l'ADN est ici, 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 on arrive bien à le mettre où on veut. Donc maintenant le problème c'est de rebrancher tout ça, et je finis sur juste en mentionnant les virus, l'utilisation des virus. Je ne sais pas si Bernadette Binceau de Vincent en a parlé ce matin. Tous ces virus-là sont pas tous dangereux, loin de là. Ils sont même, dans certains cas, extrêmement utiles. Mais en tout cas, ce qui les caractérise, c'est qu'on sait les manipuler en laboratoire. Quand je dis « on », c'est pas nous. C'est nous, malheureusement, on ne sait pas. On aimerait bien. Mais il y a des équipes qui font ça extrêmement bien. Et donc, ces objets sont soit sphériques, soit creux, soit de forme allongée. Alors, les gens utilisaient ça pour faire 3 choses. Des templates pour minéraliser, donc fabriquer des fils métalliques en minéralisant l'intérieur du virus, faire de l'auto-assemblage en utilisant la possibilité de faire des phases smectiques avec les virus, mais surtout deux choses qui sont assez frappantes. Une première qui est une espèce de sélection naturelle biaisée. Le principe, c'est le suivant. On prend un ensemble de virus, on les met en contact avec une surface, et ces virus, c'est une bibliothèque de virus différents, que l'on sait programmer génétiquement, et on garde le virus qui interagit avec la surface. On rince, on amplifie ce virus, on le remet en contact, et ainsi de suite. Et à la fin, on garde un virus qui est absolument spécifique de l'interaction avec une surface minérale, et en l'occurrence, cette surface est du GAS. Donc c'est vraiment pas un milieu auquel le virus était préparé. Pour autant, dans les 10 puissance 9 virus, il y en a un qui est fabuleux, et qui se tient exactement sur cet endroit-là. Alors, évidemment, on ne sait pas pourquoi celui-là va avec le GAS, alors qu'un autre va aller avec l'INAS. Et dernier point, c'est qu'on sait programmer complètement ça, et en le programmant, on sait en particulier différencier chimiquement l'enveloppe protéique de la partie tête du virus, de l'enveloppe protéique de la partie queue du virus, et donc ce que j'essaie de faire les groupes, c'est d'aligner entre un métal ou un semi-conducteur donné et un métal ou un semi-conducteur différent des virus, pour ensuite minéraliser tout ça et connecter. Donc là, on voit comment utiliser ces virus pour fabriquer. Donc dans les conclusions, j'avais repris la notion de convergence technologique. J'avais repris un petit peu les aspects de convergence entre les disciplines et de difficultés d'interfaçage avec une technologie qui est extrêmement difficile. Et puis je finirai juste comme ça en disant qu'il faut se garder de faire des prédictions sur le futur, parce que voilà les premiers circuits intégrés en 58, et à l'époque, les gens faisaient de la publicité extrêmement chère en disant « ceci, évidemment, regardez, c'est dégueulasse, entre guillemets, ça ne remplacera jamais nos lampes magnifiques, et on sait ce qu'il en est advenu. » Et je ne vais pas faire de prédiction, je dirais simplement que voilà le premier dispositif bio-assemblé, un où il n'y a absolument aucune lithographie, donc il y a un brin d'ADN là-dessous, un nanotube et un contact qui est fabriqué par croissance. Et donc ça, ça a été fait en 2003. Alors est-ce qu'il y aura une analogie à faire plus tard ? Ben, l'avenir nous le dira. Voilà, excusez-moi d'avoir été un peu trop long.